portrait de femme de notre matrimoine. C'est donc le 21e portrait aujourd'hui, présenté par Jacqueline Graff, présidente de Femmes Solidaires. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous présentons une sculptrice majeure du XXe siècle, française, sculptrice d'un monde fabuleux, qui s'appelle Germaine Richier, R-I-C-H-I-E-R. Elle est née en 1902 dans une famille aisée du sud-est de la France. Elle passe son enfance et son adolescence dans une propriété familiale près de Montpellier, à Castelnau-le-Lez plus exactement. Enfant insouciante d'une famille aimante, elle a deux frères et une sœur, elle préfère, au lieu d'aller à l'école, courir à travers les vignes et les champs d'oliviers, fascinée par tout ce qui vit dans la nature, surtout les insectes, sauterelles, fourmis, araignées, mais aussi les arbres, l'eau et les cailloux, dont les formes l'inspireront beaucoup plus tard pour ses sculptures. C'est en 1914, en visitant avec son père le cloître de Saint-Trophime, à Arles, qu'elle décide à 12 ans de devenir sculptrice. De 1918 à 1920, elle est interne au pensionnat Viesa à Montpellier, mais dès l'obtention de son certificat d'études, elle décide, malgré la réticence de ses parents, d'intégrer l'École des Beaux-Arts de Montpellier, où elle apprend avec passion la technique des portraits, les filles ayant enfin accès aux ateliers de peinture et de sculpture. Avec l'aide de son frère Jean, monté à Paris en 1926, elle obtient d'Antoine Bourdel, le sculpteur célèbre de son temps, de devenir son élève. Il sera son mentor jusqu'à sa mort en 1929. Parallèlement, pour subvenir à ses besoins financiers, elle travaille à l'usine Siegel à Saint-Ouen. Elle a rencontré d'autres praticiens de l'art, notamment un Suisse-Allemand, Otto Benninger, B-A-2-N-I-G-E-R, qu'elle épouse en 1929. Ils s'installent ensemble dans un atelier commun, 36 avenue de Châtillon, dans le 14e arrondissement à Paris, un atelier qu'elle conservera toute sa vie. Et pour être financièrement indépendante de son mari, elle donne des cours à des élèves. Son premier succès est le portrait classique du jeune Rémy Coutin, le fils d'un ami, pour lequel elle reçoit le prix Blumenthal et une bourse de 12 000 francs en 1936. Elle est une des rares femmes à recevoir ce prix créé par la philanthrope franco-américaine Florence Blumenthal, dans le but de faire connaître des artistes français aux États-Unis. Ce prix perdurera jusqu'en 1959. Le galériste Max Kaganovich organise alors une première exposition personnelle des œuvres de Germaine Richier. En 1937, elle présente sa statue de bronze Loreto, un jeune adolescent, à l'exposition intitulée « Les femmes artistes d'Europe » au musée du Jeu de Paume. L'État le lui achète pour l'attribuer au musée Fabre à Montpellier, où on peut le voir. Les deux années suivantes, elle participe à de nombreuses expositions collectives dans les capitales d'Europe du Nord et à New York. C'est le début d'une carrière internationale. Les années déterminantes de son parcours sont les années de guerre et d'après-guerre. Pendant toute la durée de la guerre en France, c'est-à-dire de 1940 à 1946, pendant 6 ans, elle s'exile en Suisse, à Zurich, chez son mari. Elle ressent un sentiment de honte d'être ainsi à l'abri pendant que son pays souffre, mais son mari la rassure sur ce point. Elle est très impressionnée par le pouvoir dévastateur indescriptible des deux bombes atomiques larguées sur le Japon par les États-Unis d'Amérique en août 1945. Les deux villes visées, Hiroshima et Nagasaki, sont entièrement pulvérisées, tous les corps des civils pétrifiés l'instant d'une onde de feu. Cela l'amènera, en 1950, à signer l'appel de Stockholm contre la guerre atomique. En Suisse, pendant ces 6 années, elle expose et acquiert une renommée avec d'autres exilés étrangers tels Marino Marini, Le Corbusier, Alberto Giacometti, qui lui n'est pas étranger parce qu'il est suisse. Ils forment un groupe d'artistes. C'est là qu'elle crée ses premières figures hybrides, à la fois humaines, animales, végétales, à mi-chemin du masculin et du féminin. Le crapaud, 1940, la sauterelle, petite, 1944, l'homme forêt, 1945, etc. Mais la guerre finie, elle est décidée fermement à retourner vivre à Paris, seule, son mari reste dans son pays. Elle retrouve son atelier et alors commence pour elle une période de grande créativité, toujours à la recherche de l'hybridation des formes humaines, animales et végétales. La mante grande, l'araignée, la chauve-souris. Elle côtoie des artistes, des critiques d'art, dont René de Saulier, qu'elle épousera en 1954 après avoir divorcé de Benninger. Les années 47-48, elle conçoit un portrait en pied qui lui offre son premier très grand succès public et les honneurs de la presse qui la rendent célèbre. Il s'intitule « L'orage ». C'est un gros homme, sans visage, un bronze patiné de 1,89 m de haut. Selon le poète Francis Ponge, ce personnage fascine parce qu'il est, entre guillemets, formidable, c'est-à-dire à la fois impressionnant par sa force, monstrueux par sa forme et admirable par son modelé. Le modèle qu'elle a utilisé est un Italien presque octogénaire, un vieil homme ventripotent, Antonio Nardone, dit Cacao, qui avait déjà posé pour Rodin. Germaine Richier l'utilisera plusieurs fois pendant presque 10 ans pour des statues de formes puissantes telles l'ogre 1949, le pantal 1954 ou la montagne 1956. Elle a trouvé là son modèle idéal. Ces statues peuvent surprendre, mais elles ne cherchent pas la beauté, mais la vérité. Pour ces bustes ou ces statues, ces modèles sont indifféremment jeunes ou vieux, célèbres ou anonymes. Son œuvre audacieuse conserve une base traditionnelle héritée de sa formation initiale. Les bustes sont mes gammes, dit-elle. En 1947, elle est invitée à exposer et à enseigner à l'Anglo-French Art Centre à Londres, où elle s'initie à la gravure avec passion. En 1948, elle fait un séjour à Vence. Elle y fréquente Pablo Picasso et Henri Matisse. Elle expose à la Galerie Meg. Parallèlement, elle continue de donner des cours. C'est en 1950 qu'elle reçoit une commande qui l'honore. Le chanoine Jean de Vémy, les pères dominicains, lui commande un Christ pour l'église Notre-Dame de toute grâce du plateau d'Assy, Assy en Haute-Savoie. Inspirée par les Christes tourmentés du Moyen-Âge, elle réalise un corps longiligne qui porte des traces de scarification et qui est divisé par une fente béante, le visage raviné, absent. Mais tel quel, il provoque la polémique parmi les catholiques. Il est retiré du cœur à la demande de l'évêque d'Annecy. Il sera réinstallé en 1969 et classé monument historique en 1971, mais Germaine ne le verra pas parce qu'elle est morte en 1959. Les années suivantes sont des années de travail et de production intense, de gloire aussi. Les expositions se succèdent. Venise, Londres, Amsterdam, Berne, Chicago, Minneapolis. La dernière exposition de son vivant est au musée Grimaldi, château d'Antibes, en 1959, l'actuel musée Picasso. Elle reçoit la Légion d'honneur en 1954. Elle est photographiée avec ses œuvres par Agnès Varda et Brassailles. La reconnaissance internationale culmine avec la rétrospective que lui consacre le Musée national d'art moderne de Paris en 1956, où pour la première fois, parmi une longue liste d'hommes, Matisse, Léger, Chagall, Miro, Calder, une femme figure dans une exposition du musée parisien, où sont réunies 82 de ses sculptures. L'État achète l'ouragan, le pendant féminin de l'orage. Ouragan, c'est le nom féminisé de l'ouragan. Sa dernière œuvre, en 1959, c'est l'échiquier, soit 5 figures fantastiques, le roi, la reine, le fou, le cavalier et la tour, où elle utilise la couleur, nouvel objet de ses recherches. Mais elle n'a pas le temps de les poursuivre. Elle meurt le 31 juillet 1959 à Montpellier, à 56 ans. Depuis plusieurs années, elle se battait contre un cancer opéré en 1954. Elle est enterrée dans le caveau familial à Mudaison. Elle n'a pas eu, heureusement, le destin tragique de Camille Claudel, autre sculptrice géniale. Elle a été reconnue et célèbre de son vivant, comme Rosa Bonheur, l'artiste peintre, mais morte trop tôt, à 56 ans, et aussi trop vite oubliée et méconnue, comme Rosa Bonheur. Récemment, comme Rosa Bonheur encore, redécouverte, en tant qu'artiste majeure du XXe siècle, elle s'inscrit pleinement dans notre mémoire collective, dans notre matrimoine. Une petite citation d'elle. « Aucune forme, me semble-t-il, ne peut être séparée de son monde, des éléments. J'essaie de voir sous la surface des choses. Et aussi, plus je vais, plus je suis certaine que seul l'humain compte. »
Vos sources, Jacqueline.
Oui, alors mes sources, il y en a trois. L'album réalisé par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à l'occasion de l'exposition actuellement présentée au Centre Pompidou à Paris depuis le 1er mars et ce jusqu'au 12 juin 2023. Édition Centre Pompidou 2023. Germaine Richier, la femme sculpture, de Laurence Durieux. Laurence Durieux, c'est la petite nièce de Germaine Richier, donc pour les textes, Laurence Durieux, et Olivia Sautreuil pour les dessins. Roman graphique, hommage vibrant à Germaine Richier, édition Bayard Graphique et Centre Pompidou. Et enfin, Télérama hors série, Germaine Richier, édition Télérama, mars 2023.
Jacqueline, merci et à la prochaine.
À la prochaine fois. Bonne semaine à toutes et à tous.
Merci, au revoir.
Au revoir.